La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant toute cette semaine pour discuter de l'actualité locale. Et on commence cette semaine en discutant d'économie sociale et solidaire. En effet, l'IRESA, l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, de laquelle fait partie Radio Campus, lance un nouveau programme intitulé La Bulle, dont l'objectif est d'accompagner l'émergence de nouveaux projets qui innovent socialement. Sarah est allée rencontrer Nathalie, bénévole, et Marion, chef de projet, et je vous propose qu'on écoute ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Projet, un programme, La Bulle. Rencontre avec Nathalie et Marion.
Je m'appelle Nathalie Parent et je suis adhérente à l'IRESA et membre du bureau en tant que secrétaire et plus particulièrement en charge en fait de développer en fait les offres de services qu'on peut faire à nos adhérents et à toute personne intéressée par l'innovation sociale, d'où la naissance de La Bulle.
Et moi c'est Marion Quéjot, j'ai intégré l'IRESA en septembre 2020 en tant que chargée d'accompagnement et de développement des projets de l'économie sociale et solidaire sur le territoire du Maine-et-Loire.
L'IRESA vient de lancer un nouveau programme. La Bulle, c'est pour ça qu'on est là. Il s'agit d'accompagner à l'émergence de projets, mais pas n'importe quel projet. Quels critères déjà devaient avoir ces projets? Quel genre de projet?
Alors nous, ce qui nous importe, c'est justement d'accompagner au mieux l'innovation sociale sur le territoire du Maine-et-Loire. Donc on a plusieurs critères en fait qui nous aident à choisir, on va dire, les projets qu'on va accompagner. D'abord, c'est la question du besoin social, de savoir si les projets ont pour vocation de couvrir des besoins qui seraient peu ou mal satisfaits sur un territoire, ou aussi une manière d'entreprendre qui serait en termes d'organisation un peu différente de ce qu'on peut voir dans une entreprise classique. Donc ça, c'est notre premier critère, on va dire, essentiel. Ensuite, c'est la question de comment les projets s'imaginent s'ancrer dans un territoire. Comment est-ce qu'ils ont envie de faire avec le réseau actuel? Comment ils ont envie de fonctionner avec l'écosystème qui gravite autour d'eux? Donc c'est cette attention à des dynamiques de partenariat avec de l'existant notamment, et avec cette idée aussi que du coup, le besoin social correspond au territoire dans lequel ils ont envie de s'implanter. Donc c'est un deuxième point qui est important. Et puis un des troisièmes qui est très fort et qui est lié aussi à l'identité de l'IRESA, c'est la dimension collective en fait des projets qui sont en train d'émerger, c'est dans quelle mesure ils imaginent dans le futur avoir des gouvernances qui soient collectives, participatives, sur lesquelles eux, en tant que porteurs de projet, auraient un poids, mais ils sont prêts aussi à ouvrir la décision, les orientations aux usagers, aux partenaires. Enfin voilà, c'est cette dimension-là qui compte pour nous.
Oui, cette dimension collective, elle est fondamentale et en fait, c'est pas du tout la même attitude et la même méthode de projet que quand on est porteur de projet individuel où on décide de monter une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut dans la durée être en capacité de continuer à avoir en fait un collectif, des gens qui sont autour du projet, qui soient mobilisés, efficaces, qui apportent leurs compétences ou qui montent en compétences. Et tout ça, ça s'anime et c'est souvent le chef de projet. Dans la durée, c'est pas si simple et il y a des méthodos vraiment géniales pour les aider à faire ça.
Pour ajouter aussi à ce que dit Nathalie, c'est aussi la dimension collective, à la fois sur la phase de compréhension du besoin social, sur la phase d'imaginer la solution qui pourra permettre de répondre à ce besoin social, mais aussi par la suite, quand on réalise le projet et quand on le met en œuvre, c'est aussi cette dimension collective dans la réalisation. Donc c'est un peu sur ces trois phases-là qu'on accompagne la possibilité de la dimension collective, c'est à la fois sur le diagnostic, à la fois sur la co-construction de la solution et sur la réalisation de cette solution.
Cette année, c'est donc la première édition, c'est la première fois que vous lancez ce programme. Qu'est-ce que vous attendiez de cet essai, finalement, de ce crash test? Et qu'est-ce que vous attendez encore si vous aviez des attentes spécifiques?
Au niveau des membres du conseil d'administration de l'IRESA, la première chose qu'on attend, c'est qu'il n'existait pas d'offre d'accompagnement de projets d'innovation sociale sur le territoire et sur le Maine-et-Loire. Donc il y avait un manque et une demande en fait des porteurs de projets, de ces collectifs en fait, de pouvoir être aidés. Donc ça c'est la première chose, c'est ce qu'on attendait, c'est d'avoir une offre qui tienne debout. Deuxième chose, là on est dans une phase de crash test hein, réellement, c'est-à-dire d'expérimentation. Et sur cette phase d'expérimentation, on a tenu absolument à monter en fait cette offre avec des adhérents experts de l'accompagnement de l'IRESA. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas recréer une offre de service tout seul dans notre coin, mais on fait intervenir en fait les différents adhérents qui sont en fait consultants et chargés de l'accompagnement. Et je vais laisser à Marion le soin de les présenter.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'applique à nous-mêmes la propre méthode qu'on essaye de, en tout cas, de faire passer aux porteurs de projets. Donc, les intervenants qui font partie de notre collectif, on va dire, parce que notre objectif, c'était en effet d'avoir une action concertée et décloisonnée sur cette question de l'innovation sociale. Donc, on va autant retrouver autour de la table, autant Angers Technopole, France Active, le laboratoire de recherche ESO, on va retrouver l'ABGE, Aviso, les coopératives du territoire, donc les coopératives d'activité et d'emploi que sont CDP49 et OSE. J'espère que j'en oublie aucun. Donc voilà, c'est l'idée de venir tous avec nos spécificités et nos regards, mais de le repasser à la moulinette de l'innovation sociale pour s'assurer que chacun va apporter ses compétences, son expertise et en plus prendre en considération les spécificités des projets d'innovation sociale, d'utilité sociale, parce qu'ils ont ces spécificités, ils ont des spécificités.
Pour accompagner des projets, il faut des projets. Vous avez lancé un appel. Est-ce que vous avez eu beaucoup de propositions? Est-ce que ça a bien fonctionné?
Alors sur cette première édition, on est plutôt satisfait puisque aujourd'hui, on cherchait à accompagner 10 projets. On a eu une vingtaine de candidatures, plusieurs structures ou porteurs ou collectifs de porteurs qui étaient intéressés, mais dont les délais étaient un petit peu en décalage. Donc, on ne pouvait pas forcément les accompagner. Donc, aujourd'hui, on en a sélectionné 11 au lieu de 10 finalement. Donc, c'est plutôt, on est très content avec des orientations aussi de beaucoup de partenaires différents. Donc, ça veut dire que le message s'est diffusé sur le Maine-et-Loire. Maintenant, c'est la première édition. Notre volonté, c'est d'en faire plusieurs par an et de continuer à le proposer dans les années à venir. Donc, il faudra, on va dire, réitérer ce premier succès, si on peut appeler ça ainsi.
Qui pouvait participer? Est-ce que c'est seulement, seulement des structures du territoire ou est-ce que des citoyens, citoyennes pouvaient aussi proposer des projets, des associations?
Alors, l'idée, justement, c'est que le programme est très ouvert sur la manière, enfin, sur les porteurs de projets. Donc, ça peut être autant un individu qui a des envies de collectif, ça peut être un collectif de citoyens déjà constitué sur une thématique, mais pas forcément formalisé sous un statut juridique. Et ça pouvait aussi être des structures du territoire qui ont déjà des activités, mais qui ont envie de développer quelque chose de nouveau et qui ont le sentiment qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur cette phase d'émergence. Donc, on a été très large, justement, pour laisser la possibilité aussi à l'innovation sociale de se faire aussi dans les portages.
Oui, je dirais, vous disiez, est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il peut très bien, là en ce moment, on se rend compte qu'il y a des mouvements importants en fait de déménagement, de désir en fait de s'installer plus en province hein, pour des Parisiens, plus à la campagne éventuellement. Et rien ne nous empêche en fait d'accueillir un porteur de projet qui vient d'ailleurs, à condition qu'il réponde à un besoin social, qu'il soit bien ancré sur le territoire, que ce soit un projet ancré sur le territoire et qu'il y ait un collectif et donc un mode de gouvernance, une manière de manager ce projet qui soit plutôt collectif et qui implique différentes personnes.
Au niveau de la forme de l'accompagnement des projets, vous proposez plusieurs choses, entre autres des ateliers collectifs. Quel type d'atelier, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui participent?
On y a beaucoup pensé et puis en plus on a dû changer de braquet au dernier moment puisqu'on entame, on entame la bulle en plus en version confinée, donc à distance. Donc le but c'était des ateliers collectifs. L'objectif c'est des ateliers collectifs qui soient participatifs, ludiques et dynamiques, qui favorisent en tout cas l'enrichissement mutuel. Donc on fait énormément appel aux dynamiques d'intelligence collective dans la manière dont on anime ces ateliers collectifs. Et au niveau des thématiques qu'on propose, on a forcément la question du besoin social et du diagnostic de territoire qui sont travaillés, qui sont des étapes, on va dire, essentielles de compréhension du besoin qu'on a envie de couvrir et et aussi de validation de la pertinence en fait de couvrir ce besoin. Et puis on a d'autres thématiques comme le modèle économique, découvrir les différents statuts juridiques, et une spécificité qu'on a eu envie de développer au sein de l'IRESA, c'est cette dynamique collective. On a tout un atelier qui est dédié justement à comment en fait on articule son collectif, comment est-ce qu'on prend des décisions en collectif, comment est-ce qu'on fait circuler l'information en collectif, parce que ça demande un minimum de concertation et d'être OK sur un certain nombre de règles. Donc on travaille en plus cette dynamique-là. Et puis on va plus classiquement aussi apprendre à communiquer sur son projet et surtout voir comment préparer la suite, parce que la bulle, c'est vraiment la phase d'émergence. Donc on va travailler les premières étapes du projet, mais ensuite il y aura la nécessité de continuer, et donc il faut être au clair sur c'est quoi la route qu'on va devoir suivre pour continuer à avancer, et de voir aussi auprès de qui on peut aller trouver du soutien dans cette phase, dans cette seconde phase de vie, on va dire, du projet. Donc nous, on accompagne vraiment cette idée de l'idée au projet, et une fois que le projet commence à avoir pris forme, une fois que ce dernier est validé, on voit comment est-ce que cette fois on travaille vraiment à sa mise en œuvre réelle.
Vous prévoyez également une mise en réseau avec des structures et des collectivités du territoire. Qui sont ces structures ? Est-ce que ce sont les adhérentes de l'IRESA qu'on a citées juste avant ? Et quelles relations vont-elles avoir exactement avec les lauréats ?
Là, c'est très ouvert. C'est bien évidemment en fait l'effet boule de neige, c'est-à-dire que les structures partenaires de ce dispositif, alors partenaires opérationnels, c'est-à-dire celles qui vont animer en fait les différentes étapes, vont ouvrir leur réseau. On a également en fait nos partenaires financeurs, que sont la région des Pays de la Loire, que sont il y a l'Europe aussi, il y a l'ADEME. Ça, c'est très important, parce que l'ADEME, c'est parce que et on souhaite qu'il y ait pas mal de projets qui sortent autour de l'économie circulaire, parce que c'est un axe qui se développe énormément et qui est fondamental en matière de transition écologique. Donc là, en fait, c'est vraiment faire bénéficier de ce réseau de l'IRESA où il y a plus de 140 adhérents et le mettre à disposition des 11 porteurs de projets pour que ça avance.
Peut-être pour ajouter aussi, c'est l'idée que certains qui sont passés par ces dynamiques d'innovation sociale aussi puissent partager leur expérience. Donc c'est aussi dire leur réussite, mais aussi les difficultés et comment est-ce qu'ils les ont surmontées. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des temps de témoignages de porteurs de projets qui ont réalisé aujourd'hui ces projets. Pour le moment, c'est mis en stand-by parce que confinement, mais l'idée aussi, c'est d'animer ces ateliers collectifs hors les murs de l'IRESA et d'aller même dans les structures porteuses d'innovation sociale pour qu'il y ait aussi une vision très concrète de ce qui s'est fait à la fois autour de Saumur, à la fois sur le nord du Maine-et-Loire. Enfin voilà, c'est aussi de se balader sur le territoire et de voir ce qui existe pour un peu ouvrir les possibles des porteurs de projets.
Au niveau du suivi individuel, je suppose que c'est comme ce qu'on disait avant, c'est être là et donner des conseils et des pistes pour justement après que les lauréats puissent suivre leur route après la bulle.
En fait, la bulle, elle doit être conçue comme une première étape dans la préparation du projet. Mais normalement, en fait, à l'issue de la bulle, ils ont commencé à dessiner les contours de leur projet, du modèle économique. Il y a aussi le laboratoire réseau, en fait, qui travaille justement sur ces indicateurs et ces critères d'innovation sociale. Et à l'issue de ça, en fait, on les orientera où ils iront en toute liberté vers un cabinet d'expertise comptable, vers des organismes d'accompagnement plus classiques, en sachant que ça peut être la CCI, la Chambre des métiers, Angers Technopole, mais ils auront déjà une préfiguration et une avancée assez importante par rapport à cette préparation du projet.
Sur le suivi individuel, en tout cas, on est un peu en soutien avec un système où c'est à eux de nous solliciter, on va dire, quand ils ont un problème un peu spécifique par rapport, en tout cas, aux thématiques qu'on a déjà abordées. Donc l'idée, c'est vraiment de peut-être pouvoir venir décoincer des petits freins, de donner des conseils méthodologiques, de pouvoir orienter vers les bonnes personnes quand ils ont l'impression qu'ils coincent sur un sujet spécifique. Donc on va vraiment se faire facilitateur, on va dire, dans la démarche, à la fois sur la question de la méthodo, la question du réseau. Donc ce qui ne peut pas être traité en collectif va pouvoir être fait un peu plus sur mesure, parfois en individuel. Donc c'est vraiment cette volonté-là.
Grande question, est-ce qu'on peut savoir voir un peu, avoir une mise en bouche des projets qui ont été sélectionnés, avoir les grandes lignes, ou est-ce que c'est top secret ?
Non, ce qu'on voit, c'est que ça va de projets de conciergerie solidaire, hein, c'est-à-dire de mutualisation de services aux entreprises, ça c'est sur Angers, un projet d'accompagnement des mères célibataires sur le territoire du Maine-et-Loire, donc ça vient de la Séguinière, sur le Choletais, et notamment de résoudre en fait la question du logement par rapport à ça. On a un projet en fait qui est autour, qui s'appelle Cyclette, hein, et qui vise à promouvoir la pratique du vélo, notamment en zone rurale, et je vais en donner encore une, et puis après je te laisse la parole, Marion. Et puis il y a l'idée là qui est marrante aussi, de Sharebox, hein, qui est une solution de partage de biens d'équipement pour une utilisation partagée du type perceuse, du type appareil à raclette, à une communauté de personnes hyper localisées entre voisins. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des projets qui visent à répondre à un besoin local. Après, y a bien évidemment des applications qui existent là-dessus, etc. Et c'est au porteur de projet de voir comment positionner son projet par rapport à d'autres.
Non, en fait, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant par rapport à cette première mouture, on va dire, c'est à la fois la diversité des thématiques qui sont traitées. On va avoir autant des questions de précarité, de services aux entreprises, des questions de mobilité, économie circulaire, la question de la culture et du handicap. Donc on a une grande diversité de porteurs de projets, et là où on est plutôt satisfait, c'est qu'il y a une centralité d'Angers. Beaucoup de porteurs de projets sont d'Angers, mais on a aussi des projets qui viennent du Segréen, qui viennent des Mauges ou qui viennent du Choletais. Donc ça, c'est aussi cette satisfaction de se dire on n'a pas une couverture complète aujourd'hui encore du territoire, c'est quelque chose qu'on va viser pour la suite, mais on a quand même une petite satisfaction de ne pas avoir que des projets complètement angevin-angers.
Même si on l'a dit plusieurs fois, la bulle est là surtout pour le début du projet. Je suppose que vous, comme les personnes qui proposent les projets, ont envie de voir ces projets se réaliser. Vous espérez les voir le jour d'ici combien de temps ?
Ça là-dessus, il y a tous les cas de figure. En fait, il y a, dans l'innovation sociale, vous pouvez avoir un premier cas de figure où en fait il faut agir par la preuve. Donc il y a certains projets où ils vont décider de tester, d'expérimenter le service en petit et ensuite de déployer l'entreprise. Moi j'ai moi-même porté un projet d'innovation sociale pendant 10 ans qu'on a cédé ensuite, qui s'appelle Social Planète. Et quand on a démarré, c'était en 2011, on a dit de toute façon il faut qu'on crée la plateforme collaborative pour que les gens s'inscrivent. On doit le faire. Et puis ensuite on évoluera dans le modèle économique. Donc ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que de plus en plus de projets en fait sont des projets qui ne peuvent pas être ficelés à 100% au moment où ils se créent, et que les modèles éco évoluent grandeur nature. J'ai moi-même été directrice de boutique de gestion, donc je connais bien ces questions d'entrepreneuriat. Il y a 20 ans en fait, on faisait les choses au carré, études de marché avec positionnement, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel. On arrivait à avoir des données qui pouvaient dessiner des contours extrêmement précis de ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plus délicat. C'est-à-dire qu'on parle d'hypothèses, mais on fait surtout prendre conscience aux porteurs de projets qu'une fois qu'ils sont installés, qu'ils ont créé, les trois premières années, les choses évoluent extrêmement fortement sur le modèle économique. Donc on les prépare au mieux, mais donc ça veut dire que il y en a qui vont peut-être décider de tester, d'expérimenter à l'issue de ces 2 mois d'accompagnement, 3 mois même, non, c'est 3 mois, à l'issue de ces 3 mois d'accompagnement, et puis d'autres en fait qui vont encore attendre 6 mois pour le faire. Par contre, ce qui prend du temps, ça il faut bien que les porteurs de projets en aient conscience, c'est la création et la consolidation de ce collectif. Ça c'est, si l'IRESA a un tel réseau qui réagit, c'est parce qu'on existe depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et dès qu'on active en fait du collectif, c'est pas le nirvana du début jusqu'à la fin. Hein. Animer un collectif faut un peu de moyens, de temps pour le faire, et voilà. Et les choses peuvent être un peu plus longues en raison de ça.
Oui, et puis qui dit projet innovant dit aussi prise de risque, donc c'est ce dont parlait Nathalie, et cette prise de risque elle est aussi temporelle. Il y a des choses qui mettent du temps à émerger, à s'installer, parce que parfois on demande aussi à ses partenaires, les partenaires financeurs, de bouger un peu les cases que eux avaient imaginées. Donc parfois, en fonction aussi du caractère nouveau du projet, ça va mettre plus ou moins de temps, parce que parler d'innovation sociale, ça veut dire aussi parler de bouger les lignes, et bouger les lignes, parfois il faut un peu lutter, avoir les épaules, prendre de l'épaisseur pour pour pouvoir le faire, et ça se fait aussi avec le temps.
La bulle est portée donc par l'IRESA. De façon générale, l'IRESA, c'est quoi ?
Donc l'IRESA, c'est l'interréseau de l'économie sociale en Anjou. Donc c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années, et dont l'objectif en fait est de rassembler l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire en priorité, et je dirais ensuite de manière plus large, l'ensemble des acteurs qui sont convaincus que cette forme d'entreprendre, que cette forme en fait de développer des projets qu'est l'économie sociale et solidaire, en fait est une voie d'avenir. Donc ça rassemble, vous voulez que j'aille aussi en détail, quoi, ça rassemble des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, et également en fait des entreprises privées qui ont ce qu'on appelle ESUS, voilà, le label ESUS, qui date de la loi Hamon, que Benoît Hamon qui avait mis en place cette loi, et qui s'engage en fait à quelques critères pour montrer qu'ils sont vraiment orientés vers la réponse à des besoins sociaux, premièrement, et deuxièmement, ce sont des boîtes qui ont décidé peut-être de faire un résultat moindre, ou plus précisément, de réinjecter une grande partie du résultat de leur entreprise pour investir, pour accroître en fait l'impact de leur entreprise sur les besoins sociaux. Donc ça, le premier but de l'IRESA, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc il y a on propose plein d'animations, des petits déj, des rencontres sous toutes leurs formes, etc. Enfin voilà, il y a des petits déjeuners, des newsletters qui sont bien fichus, des réflexions. On a lancé récemment des cafés d'IRESA où les gens discutent et échangent en fait sur l'avenir, sur le modèle qu'on souhaiterait. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, comme toute association, les missions d'IRESA ont évolué, et notamment ont évolué sur des offres de services beaucoup plus tangibles, beaucoup plus précises. Alors on va aller, par exemple, d'un projet là qui n'est pas encore sorti, mais qui s'appelle Locomotive, qui sera un tiers-lieu qui est prévu aujourd'hui de 2600 m², tiers-lieu dédié aux acteurs de l'économie locale et de l'économie sociale qui souhaitent bosser ensemble. On a un groupement d'achat, c'est-à-dire que on peut mieux peser sur les fournisseurs en fait en négociant en fait des tarifs, ou groupement d'achat pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a également en fait de l'emploi partagé, c'est-à-dire un groupement, ce qu'on appelle un groupement d'employeurs. Et vous voyez, qui est géré notamment par l'IRESA, qui est fait en partenariat avec d'autres, et puis qui permet de partager en fait des emplois. Et puis le deuxième aspect, c'est booster l'innovation sociale. Et booster l'innovation sociale, c'est donc très concrètement, ça a été l'embauche de Marion et la création de la bulle pour qu'on ait une offre d'accompagnement qui permette à ces porteurs de projets d'avancer.
Comment est-ce qu'on allie justement social, environnemental et économique, et plus concrètement, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire dont vous avez parlé ?
Économie sociale et solidaire, c'est un, répondre à un besoin social, c'est deux, faire le pari en fait d'une redistribution des résultats au profit du projet social. Ça, c'est très très important, et c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est très très à la mode, hein, ce terme de gouvernance. Faire le pari aussi d'un management, d'une dirigeance de ce projet qui soit collective. Le maître mot dans l'économie sociale et solidaire, c'est un homme, une voix. Ça veut dire qu'on ne pèse pas en fonction de l'importance de l'argent qu'on met dans l'entreprise, c'est qu'on pèse en fonction de sa personne. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, vous avez des organisations comme le Crédit Mutuel qui sont comme ça. Et on dit souvent que ces organisations, je prends l'exemple du Crédit Mutuel, mais on en a 70 000, qui font que des banques de ce type-là ont beaucoup mieux résisté, par exemple, à la crise de 2008. Le fait qu'il y ait une gouvernance partagée a permis, en fait, justement, d'amortir un peu plus facilement, en fait, ces crises. Donc, je dirais que, logiquement, l'économie sociale et solidaire s'inscrit dans le développement durable. Ensuite, sur les questions d'impact environnemental, l'économie sociale et solidaire est comme toutes les autres entreprises, elle doit prendre des engagements pour pouvoir avancer et progresser par rapport à ça.
Est-ce qu'on peut adhérer à l'IRESA, et si oui, après avoir adhéré, comment est-ce qu'on peut s'impliquer ?
Alors ça, adhérer à l'IRESA, au contraire, il faut surtout adhérer. Il y a plein de moyens de s'impliquer. En fait, maintenant, les gens souhaitent vraiment être engagés dans des causes, des causes humanistes, humanitaires, plus collectives, en fait, des causes qui ont du sens pour eux. On peut s'impliquer de manière très concrète, par exemple en participant et en donnant un coup de main ponctuel à des événements. Je pense notamment à un événement qu'on n'a pas pu faire cette année, qui s'est fait à distance, qui s'appelle les Galeries Recyclettes, qui est un espèce de grand souk à l'économie circulaire, où qui rassemblait en fait, il y avait 5000 à 5500 visiteurs juste avant les fêtes de Noël, hein, qui venaient en fait pour faire du shopping et acheter justement des produits offerts par des adhérents de l'IRESA autour de l'économie circulaire notamment. Donc on peut donner un coup de main pour ces types d'événementiel. On peut réfléchir ensemble, participer à des commissions, commission communication, communication le monde d'après, commission foyer. Il y en a des tonnes, parce que le principe de l'IRESA, c'est ce qu'on appelle de partir du terrain vers le haut, c'est-à-dire que les gens réfléchissent et puis ensuite c'est proposé au niveau du conseil d'administration pour décision en fait de ces projets. Donc on peut participer au niveau de ces commissions et puis après, eh bien, on peut être plus intéressé par la gouvernance de l'IRESA, et c'est-à-dire postuler tous les ans, parce qu'il y a une rotation des renouvellements de conseil d'administration tous les ans, bah, postuler pour être administrateur et donc là manager l'évolution de l'IRESA. On est tout le temps en innovation, en recherche en fait pour évoluer sur ce service, mieux partager l'information. On est en train d'ouvrir une plateforme collaborative, un workplace qui sera destiné à ce que tous ces adhérents aient vraiment l'accès à l'info de ce qu'il faut. Donc il y a plein de moyens de s'impliquer. Et puis c'est surtout s'impliquer aussi, c'est qu'on rentre en réseau avec les 145 adhérents et on peut aussi s'impliquer dans la gouvernance de ces différentes structures qui sont au sein de l'IRESA.
Moi, en tant que salarié, en tout cas, continuellement, on travaille main dans la main avec des bénévoles et des administrateurs de l'association. Et c'est vrai qu'en fait, ce sont les ressources vives, on va dire, de l'IRESA, celles qui font avancer au maximum l'IRESA. Donc, c'est chouette de pouvoir combiner ces deux modes de fonctionnement. Donc, au contraire, l'IRESA a besoin de aussi pouvoir peser dans le débat public sur la place notamment de l'économie sociale et solidaire. Et plus on sera nombreux à l'IRESA, plus on pourra être un porte-voix de cette manière de voir le monde.
Merci beaucoup pour le projet La Bulle. Donc là, on rappelle qu'il y a 11 projets qui sont en train d'être accompagnés, et si des personnes découvrent tout juste le programme, je leur conseille d'attendre la prochaine édition de La Bulle pour soumettre leur projet, et en attendant on suit tout ça de près et on peut adhérer à l'IRESA.
Moi je pense que c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que le recrutement en fait il se prépare, qu'il soit un peu en permanence, et moi je leur conseille même, quitte à donner Marion va donner son email en fait, de la contacter pour dire j'ai ça qui me trotte dans la tête, est-ce qu'on pourrait en discuter, parce que le rôle de l'IRESA et de Marion, c'est aussi d'être en veille permanente en fait sur les projets en fait qui sont en gestation sur le territoire. Donc ils peuvent pas rentrer dans le programme actuel, mais ils peuvent quand même en fait être accueillis par l'IRESA et avoir un entretien avec l'IRESA.
Bon courage sur le nom de famille, du coup, donc c'est marion.queijo, queijo@iresa.org. Et en effet, comme dit Nathalie, contactez-nous, parce qu'un des enjeux aussi pour nous, c'est de capter les nouveaux projets, les nouveaux besoins. Donc c'est aussi en échangeant avec les porteurs de projets et leurs envies qu'on va pouvoir le faire. Et puis oui, adhérer, c'est complètement possible, puisque Radio Campus est adhérent et membre de l'IRESA, et ça, on en est ravis aussi.
Et merci à Sarah pour cette interview. On se retrouve quant à nous pour la fin de cette émission, juste après le morceau Inisgam de Mdoumtar. Thank you. Et voilà, c'est la fin de cette Covidienne. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ce soir, c'est lundi soir, c'est votre soirée reggae roots dub en compagnie de Mélodub et Bamboo Station. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus. À demain pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.